L'actualité francophone de la semaine, au menu du recensement au Canada qui a passé la barre des 35 millions d'habitants, des professeurs de morale et de religion belges qui saisissent fait inédit ensemble la justice, l'affaire Fillon en France, suite et pas encore fin. Il sera aussi question de descente, pas aux enfers mais en ski, avec Saint-Moritz, la ville suisse hôte des championnats du monde en ce moment mais qui rêve d'un futur olympique. Et pour terminer, des lions qui rugissent de plaisir, les indomptables footballeurs camerounais. En France, cette semaine, la personnalité de la semaine s'appelle Théo. Théo, c'est ce jeune homme de 22 ans interpellé brutalement en Seine-Saint-Denis à Aulnay-sous-Bois par des policiers et grièvement blessé. Il accuse un des policiers de lui avoir volontairement enfoncé une matraque dans les fesses, donc il les accuse de viol. Le policier mis en examen pour viol plaide lui le geste involontaire, ce qui a donné lieu à une controverse juridique en France. Est-ce qu'une pénétration d'une zone sexuelle caractérise à elle seule un viol? Pas de réponse pour le moment, mais cette défense des avocats du policier a suscité une vague d'indignation en France et un soutien quasi unanime de la classe politique française. Théo, lui, a même reçu la visite à l'hôpital du chef de l'État François Hollande. On part maintenant en RDC et son premier ministre qui s'affiche aux côtés de Donald Trump. C'était une rencontre officielle, ça, Charlotte Hydrac?
Eh bien, sur une photo publiée sur son compte Twitter, Sami Badibanga pose très sérieux à côté d'un président américain, lui tout sourire, avec ce commentaire « Rencontre au sommet ». Le cliché a fait le buzz en République démocratique du Congo. Certains ont d'abord cru à un photomontage. En fait, les deux hommes se sont bel et bien rencontrés, mais pas de rendez-vous officiel, ni de tête-à-tête. C'était entre deux portes, lors d'un petit déjeuner organisé par le Congrès à Washington, le traditionnel National Prayer Breakfast, avec des milliers d'invités.
En Suisse, Pierre Anchoffat, vous avez retenu, vous, le président des recteurs des universités suisses.
Oui, il s'appelle Michael Engartner, il est né à Saint-Gall, en Suisse orientale, il y a 51 ans, mais a grandi à Québec. Ce Canado-Suisse a étudié la biochimie à l'Université Laval avant de partir pour les États-Unis au MIT, puis de regagner la Suisse à la fin des années 2000, toujours dans la partie germanophone où il dirige l'Université de Zurich. Cette double culture est un incontestable atout pour défendre l'intégration des universités suisses dans le monde de la recherche, mais aussi pour ironiser avec tendresse sur ce travers helvétique. Voir toujours tous les obstacles qui empêcheront une bonne idée, si différent de l'enthousiasme et du goût du risque nord-américain.
Une sportive a recueilli vos faveurs, Nathalie De Vic. En Belgique, on met en avant le football féminin.
Oui, j'aurais pu vous parler du meilleur joueur belge de l'année, notre soulier d'or, trophée le plus convoité de notre championnat, mais j'ai préféré m'attarder sur la nouveauté de l'année dans ce milieu si viril, la création à côté du soulier masculin d'un soulier féminin, d'or également, pour récompenser la meilleure joueuse du championnat et promouvoir ainsi le foot féminin. Notre première Cendrillon à avoir trouvé soulier à son pied s'appelle Tessa Willaert, elle est l'un des piliers des Red Flames, les Flammes Rouges nationales. Tessa qui entre de plein pied dans l'histoire du ballon rond. Un pas important s'est réjoui l'attaquante de 23 ans.
Et au Canada aussi, vous avez décidé de mettre à l'honneur un sportif, Benoît Audet, il s'agit d'un skieur.
Oui, Éric Gay qui a remporté le Super G des championnats du monde de ski alpin à Saint-Moritz en Suisse. Le skieur de 35 ans est devenu le plus âgé à remporter l'or à des mondiaux de ski alpin. C'est un peu une résurrection pour Éric Gay qui avait failli arrêter la compétition après avoir subi des blessures au genou il y a quelques années. En carrière, il totalise 24 podiums en Coupe du Monde.
Et on reste au Canada. Le Canada qui compte maintenant 35 millions d'habitants. C'est le principal fait saillant du recensement de 2016. Les principales données ont été présentées cette semaine, Benoît Audet, et on peut parler de croissance lente mais soutenue.
Oui, en moyenne, la population augmente d'1% par année, ce qui fait du Canada le pays du G7 dont la population augmente proportionnellement le plus. Le secret, ce ne sont pas les naissances, mais bien l'immigration. Bon an, mal an, le Canada accueille 250 000 immigrants. Voici à ce sujet Alain Bélanger, un spécialiste de l'étude des populations.
On a décidé d'augmenter les taux d'immigration à environ 7,5 pour 1000 et ils se maintiennent à ce niveau, peu importe l'état de l'économie canadienne, qu'on soit en récession comme en 91, en 2001 ou encore en 2008, le niveau d'immigration se maintient à des niveaux élevés. Ce qui laisse dire à certains chercheurs que la politique d'immigration du Canada n'est pas vraiment une politique axée sur le développement économique, mais une politique de nation building. C'est l'idée vraiment d'avoir une population plus nombreuse qui va permettre peut-être au Canada de se positionner sur l'échelle globale.
Et au-delà de ce portrait global, il y a des phénomènes intéressants à l'intérieur même du pays.
Oui, le poids démographique se déplace lentement, mais sûrement de l'est vers l'ouest du pays. Ce sont les provinces de l'ouest qui ont vu leur population croître de façon plus importante, comme la province de l'Alberta, où on note une augmentation de plus de 11 % de la population en 5 ans. En gros, c'est simple, les gens vont là où il y a plus de travail.
Et le Québec dans tout ça?
La population du Québec a augmenté d'un peu plus de 3 % durant la même période. Même si la population augmente, le poids relatif du Québec au sein du Canada diminue sans cesse depuis 40 ans. Dernière donnée en terminant, plus du tiers de la population canadienne se retrouve dans les trois principales villes, soit Toronto, Montréal et Vancouver.
En Belgique, Nathalie Devic, les professeurs de morale et de religion saisissent ensemble la justice.
C'est une démarche inédite. En cause, le nouveau cours dit de citoyenneté, dispensé depuis peu dans l'enseignement officiel. Tout est parti d'une plainte déposée il y a 2 ans par des parents, estimant que les cours de morale et de religion ne diffusent pas les connaissances de manière objective, critique et pluraliste. La Cour constitutionnelle leur a donné raison, forçant le gouvernement à permettre une dispense. À la place, un cours d'abord très flou, d'ailleurs appelé, c'est tout dire, cours de rien, devenu aujourd'hui cours de citoyenneté. Le hic, c'est que les professeurs habilités à le donner sont ceux de morale-religion, mais que pour éviter toute confusion des genres, ils ne peuvent enseigner ces deux matières dans la même école. Un non-sens total pour l'avocat chargé du dossier, Jean Bourtembourg.
Là, on est dans l'absurde. Soit le prof de morale et le prof de religion sont tellement contaminés par la matière qu'ils enseignent qu'ils sont incapables de donner philosophie et citoyenneté. C'est vexatoire, mais ça aurait une logique dans la bêtise. Soit le prof de religion et le prof de morale peuvent donner cours de citoyenneté et de philosophie. Mais alors le fait qu'ils le donnent dans la même classe, dans une classe différente, dans une autre école, dans une école distante, etc., n'a rien à voir.
D'autant qu'avec ce système, censé respecter une certaine neutralité, sans déranger, certains profs doivent parfois courir entre 10 voire 15 écoles pour compléter leur horaire, une situation intenable. En attendant que la justice tranche à nouveau, la ministre de l'Enseignement promet de revoir le nombre d'écoles et de kilomètres par professeur et surtout de rediscuter sans hypocrisie de la compatibilité entre religion, morale, philosophie et citoyenneté.
Et l'on reparle des turpitudes de François Fillon. Le candidat de droite du parti Les Républicains est toujours empêtré dans cette affaire d'emploi fictif présumé de sa femme Pénélope, entre autres, et il a même dû faire une conférence de presse lundi pour s'expliquer.
En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français.
Un acte de contrition de François Fillon qui a tout de même attendu 15 jours pour le faire, le même Fillon qui parle de lynchage médiatique, paradoxal, car quand il le fait en direct à la télévision, ça se passe devant 200 journalistes, donc il utilise les médias pour dénoncer ces mêmes médias. C'est la nouvelle ligne de défense, plutôt d'attaque, haro sur les journalistes, et ça fonctionne. Écoutez les réactions des militants de droite recueillies par la reporter de France Inter, Estelle Schmitt, qui était en meeting à Poitiers jeudi avec le candidat Fillon.
Pas possible les médias, hein. Faudrait commencer à réviser vos positions.
Voilà, il y a des problèmes. C'est vraiment lamentable.
Mais qu'est-ce qui est lamentable?
La mentalité des médias, bande de...
Par exemple, on attaque Fillon, là. Voulez-vous que je vous rappelle combien coûte le coiffeur de M. Hollande? 10 000 euros par mois. Vous le multipliez par 60. Et vous rapprochez cette somme de ce qu'a touché Mme Fillon. Et à ce moment-là, en travaillant...
Mais faites la comparaison.
En France, à l'heure où je vous parle, on peut le dire avec certitude, le coiffeur de François Hollande a vraiment servi à quelque chose. En ce qui concerne Madame Fillon, c'est à la justice maintenant de se prononcer. En Suisse, Pierre-Henri Chauffat, les championnats du monde de ski battent leur plein à Saint-Moritz, mais dans la région, on pense surtout à 2026.
Oui, c'est vrai, ils sont nombreux à rêver de nouveaux Jeux Olympiques d'hiver dans la station UP des Grisons. Un rêve qui pourrait se briser ce dimanche déjà. Les citoyens locaux doivent en effet se prononcer sur le crédit de 25 millions de francs suisses prévu pour cette candidature. Et lors de la précédente tentative, c'était en 2013, eh bien, le peuple avait dit non à 53%.
Mais est-ce que les chances sont plus grandes cette fois?
Bien, les organisateurs ont en tout cas pris garde d'impliquer toutes les régions, mais les critiques contre une manifestation trop grande, trop chère et surtout pas assez durable dans un canton qui joue habituellement la carte du tourisme doux pour attirer la clientèle, ces critiques peuvent faire mal. L'ancien champion de descente Bernard Russi rassure, le gigantisme c'est fini.
Point de vue piste, on n'a pas besoin de pistes indépendantes pour la vitesse, ça veut dire on sent aussi qu'on va un tout petit peu en arrière et je crois que ça c'est juste le gigantisme. C'est pas bien pour le sport, pour les Jeux Olympiques, mais si ce n'est pas la Suisse pour faire les Jeux Olympiques, quel pays pourrait les faire? Parce que nous avons les montagnes, nous avons la nature et nous avons un tourisme qui dépend beaucoup de la publicité qu'on fait sur le.
Un enjeu touristique donc, mais si les Grisons disent non, tout ne sera pas joué. Emmenés par le Valais, les cantons romands ont également leur projet. Le comité olympique suisse décidera dans un mois, mais il ne restera peut-être plus que la candidature valaisanne. La Suisse n'a organisé que deux fois des Jeux d'hiver, en 1928 et 1948, à Saint-Moritz.
Des montagnes suisses, on passe aux pelouses africaines avec l'équipe de football du Cameroun, championne d'Afrique, Charlotte Hydrac.
Les lions indomptables ont mis leurs concurrents dans la sauce. L'expression reprise d'une chanson populaire au Cameroun est devenue l'hymne des supporters.
L'Égypte est notre bête noire. Il fallait briser le signe indien.
Ceux qui ont douté ne sont pas Camerounais. Nous sommes général des divisions 5 étoiles.
Cinquième titre pour le Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations après une victoire face à l'Égypte, d'où une autre expression, les lions pharaoniques. Et pourtant, on ne les avait pas forcément vus venir, ces joueurs, ni leur entraîneur, le Belge Hugo Broos, décrié il y a encore quelques semaines ses choix contestés. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Le défenseur central camerounais Michael Ndagueux.
C'est un magicien. Il a fait renaître ce groupe-là. Beaucoup de Camerounais l'ont critiqué. Quand j'ai lu ce qu'on disait sur lui, sur les réseaux sociaux, j'avais les sueurs froides dans le dos. Mais aujourd'hui, je crois que c'est lui le héros du Cameroun. Il a donné à ce groupe l'amour de vivre, la joie de vivre, en fait.
Et ils en ont donné de la joie, ces lions, de la fierté aux Camerounais qui ont accueilli les champions comme des héros, foule en délire au retour à Yaoundé. Les plus motivés ont suivi leur bus à pied pendant 4 heures. Réception aussi au palais présidentiel, puis parade triomphale dans la capitale. Le temps de souffler et rendez-vous pour la prochaine CAN en 2019 à domicile.
L'actualité francophone, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Vous pouvez nous retrouver sur le site lesmediafrancophones.org.